Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons l'immense plaisir de recevoir le psychanalyste Michel Gad Volkovitch pour la parution de Figures du mal aux éditions In Press et l'artiste Richard Koenigsmann pour son exposition actuellement à l'Écuge, 7 octobre 2023, Larmes aux yeux, larmes à l'épaule. Bonsoir Michel Gad et bonsoir
Sandrine.
Richard.
Merci, bonjour Sandrine, merci de nous inviter.
Un psychanalyste et un artiste réunis autour de ce plateau, il manque un avocat et je ne peux pas m'empêcher de commencer par vous raconter une histoire drôle. Un artiste ashkénaze va voir un psychanalyste, l'artiste s'assied sur le canapé et commence à parler de ses problèmes. « Docteur, je ne comprends pas, j'ai toujours l'impression que personne ne comprend mon art, mes œuvres sont profondes, remplies de signification, mais les gens ne semblent pas les apprécier à leur juste valeur. » Le psychanalyste hoche la tête et demande « Dites-moi, depuis quand vous avez ce sentiment ?» L'artiste réfléchit un instant et répond « Depuis que j'ai commencé à peindre avec des moufles.
» Je croyais que vous alliez parler des enfants. Tu sais. Quel âge ont vos enfants? Le violoniste, l'artiste a 3 ans, l'avocat a 4 ans et le psychanalyste 5 ans.
Alors ça aurait pu aussi, hein. J'en ai d'autres pour la suite. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Votre double actualité est liée. D'une part, la parution d'un ouvrage collectif qui reprend les actes d'un colloque sur les figures du mal organisé par Chibolette avant les massacres du 7 octobre, dont vous avez dirigé la publication Michel Gad Volkovitch, et de l'autre, une exposition d'œuvres cathartiques de Richard Koenigsmann réalisée après le 7 octobre pour exprimer l'ineffable, mais aussi la résilience et l'espoir émanant de ce jour tragique. Et vous avez la possibilité, sans doute jusqu'au mois d'août, pour venir la visiter. L'artiste et le psychanalyste que vous êtes sont aujourd'hui liés pour réagir à l'actualité pesante par leur création littéraire artistique autour de la figure du mal. Vous êtes amis dans la vie, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment vous êtes rencontrés, Michel Gad? Est-ce que vous voulez commencer?
Écoutez, d'abord, je dois dire que c'est pour moi une rencontre très importante, Richard Koenigsmann. On a des amis communs depuis très longtemps, mais on ne s'était jamais rencontrés pour de vrai. Mais j'ai beaucoup entendu parler de Richard et de son œuvre avant. Et c'était une rencontre très importante parce que le 7 octobre, évidemment, comme vous savez, on ne va pas essayer d'être trop pesant, mais ça a été un traumatisme évidemment sidéral et terrifiant, et qu'on ne savait pas comment nommer, comment penser, comment situer. C'était vraiment quelque chose d'existentiel qu'on vivait, c'est-à-dire avec des angoisses de disparition, etc. Comment vivre ça, comment entretenir nos relations pour tenir, nos liaisons de pensée aussi, comment se donner des images, et j'ai découvert une forme d'art de Richard que je ne connaissais pas, avec pratiquement tous les jours les œuvres qu'il a faites en référence au 7 octobre, et c'était une démarche que j'ai trouvée tellement incroyable, d'avoir cette force, cette créativité, et cette j'insiste sur créativité, c'est pas seulement cathartique, c'est je crois le travail analytique comme le travail artistique, c'est-à-dire à partir d'un traumatisme qu'on a tous ou que les patients ont ou qu'on vit, comment effectivement on essaye de le restituer, de le lier à la réalité qu'on vit et en même temps de créer quelque chose. Alors on peut appeler ça la sublimation, on peut appeler ça quelque chose comme ça, et je trouvais que dans le travail de Richard il y avait quelque chose effectivement qui à la fois nous donnait à nous représenter le traumatisme qu'on vivait, la réalité qui était là, la réalité pas seulement du massacre, mais aussi la réalité de l'antisémitisme et des déchaînements pulsionnels auxquels on avait affaire, la réalité des institutions totalement perverties qui condamnaient les victimes à la place des assassins. Enfin, dans l'œuvre de Richard, il y avait quelque chose comme ça qui se construisait, et puis en même temps, il y avait de la créativité qui s'appuyait aussi sur la culture juive, sur l'histoire juive, et qui nous donnait à penser, qui donnait vue sur le langage qu'on avait du mal à avoir, et qui donnait des représentations qu'on avait du mal à avoir. Et c'était un travail de liaison, à la fois individuel et collectif, parce qu'il se trouve qu'avec tous les amis et tous les admirateurs de Richard, on s'échangeait nos avis sur ce travail, en quoi ça nous soutenait, en quoi ça nous portait. Et donc, ça a été très important à la fois de rencontrer pour de vrai l'homme et à la fois de s'appuyer sur son art et qui est encore une fois, d'autant plus que c'était une forme d'art qui n'était pas la mienne a priori, et c'est pas celle que je connaissais de Richard, et ce qui n'est pas la forme habituelle, mais j'avais certainement besoin de cette étrangérisation de la forme d'art pour pouvoir me l'approprier à ce moment-là. Donc c'était très important. Et il se trouve qu'effectivement, on était en train de sortir ce livre « Figure du mal » dans lequel, Sandrine, vous contribuez sur la question du fratricide, qui est un texte très important.
Alors, on va en parler plus longuement dans un instant, parce qu'il faut revenir à la genèse. Mmh. Deux questions pour vous, hein, Richard. Qu'est-ce que vous inspire ce que vient de dire Michel Gadvolkovitch? Est-ce que finalement, c'est lui la liaison pour cette exposition?
Ben, je dirais que devant un psychanalyste, on ne peut que se coucher, dire que je ne sais pas, parce que c'est, comme il a expliqué, très pulsionnel. Il y a un tableau que j'ai peint et qui s'appelle « On voit une bouteille d'encre qui se déverse dans un tunnel et le 7 octobre coule encore. » Et aujourd'hui, il coule encore. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire? D'abord, je suis flatté et honoré. C'est une rencontre. On pourrait se poser la question qui est l'artiste et qui est le psychanalyste, parce que c'est le croisement, effectivement, de figures, puisqu'il s'agit de figuration. L'abstraction, j'en ai pratiqué, et peut-être la figuration, à toi, Micha, ça te permettra de comprendre qu'il y a des choses inexprimables dans l'abstraction, que je ne pouvais pas faire autrement, en urgence absolue, dès le 8 octobre, de me jeter, non plus sur des toiles, mais j'expliquerai tout à l'heure, ce que je peins et comment je peins. Mais je voudrais dire aussi, c'est que les figures qui ont surgi, en reprenant un mot de René Char, c'est que les figures qui surgiront, les images qui surgiront, savent de nous ce que nous ignorons d'elles. Donc voilà, donc, je dis souvent que moi je peins en yiddish, c'est-à-dire de manière à la fois onirique, analytique, psychanalytique, politique, tout est mêlé, et c'est un vrai mélange, et c'est une rencontre formidable, parce que ce sont des mélanges de textes, de titres, qui inspirent des tableaux, et des tableaux qui inspirent des titres, et non seulement des titres, ce que j'ai pensé, ce que j'ai exprimé sous forme de titres, mais qui a inspiré une quinzaine de personnes. C'est pas parce que j'aurais peint des belles petites fleurs, qui aurait eu des textes écrits par d'éminentes personnalités où je me suis reconnu parce qu'elles ont pensé ce que moi je n'ai pas pensé. Donc l'impensable est au rendez-vous, voilà, de ce travail.
Alors vous parliez tout à l'heure, Michel Gadvolkovitch, de la créativité hein, de ces œuvres. Il y a eu une intention qui nous a parlé à toutes et à tous, et vraiment j'invite les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom à venir les voir, parce qu'il se passe quelque chose. Quelques jours après le 7 octobre, quand vous avez commencé la première œuvre, est-ce que vous imaginiez que d'autres suivraient et qu'elles seraient exposées?
Pas du tout. Pas du tout, c'est, je crois, le lendemain, c'est-à-dire un dimanche, puisque ça s'est passé, hélas, je crois, un Shabbat.
Shabbat noir, hein, comme Shabbat, on dit
exactement.
En Israël.
Je devais peindre en urgence absolue. Je suis venu à l'atelier. Un peu la genèse de ces œuvres, c'est que je n'ai pas pris de toile. Les toiles, c'est blanc. Les toiles, c'est une matière, c'est du lin. Non, j'ai pris du papier craft. J'avais un rouleau, je l'ai déroulé. Je n'ai pas pris de la couleur dans les tubes, mais je l'ai pris au fond des bocaux dans lesquels mes pinceaux se nettoyaient, étaient là. Il y avait une sorte de boue. Et j'ai jeté une première peinture qui s'appelait « Sauver nos enfants ». Tout de suite, il est apparu des images que j'ai recyclées, c'est-à-dire l'image du roi. Je m'appelle Koenigsmann, l'homme du roi. Donc, ça se retrouve dans beaucoup de mes œuvres. Vu qu'un an plus tôt, j'avais fait une très grande exposition à Mons, en Belgique, qui s'appelait « Les possibilités du mal ». Vous vous rendez compte, c'était sur la guerre d'Ukraine. À l'époque, j'avais un style qui était ludique. Je reprenais également des nounours, mais je leur faisais des grands nez, enfin des nez de Pinocchio. J'étais inspiré avec une approche très ludique. Et vous vous rendez compte, un an plus tard, c'était plus la possibilité du mal, c'était la réalité du mal.
Alors, très justement, hein, les figures du mal, ce fameux colloque, était prémonitoire, puisqu'il était organisé, vous l'avez pensé, avec Chibolette, bien avant les massacres du 7 octobre. Quelle en est la genèse? Est-ce que le mal, c'est une thématique récurrente en psychanalyse?
Non, pas du tout, justement. Mais je dois dire, malheureusement, je dis souvent quand je suis interviewé en Israël ou ici, c'est que ce qui s'est passé, qui nous paraissait incroyable ou inimaginable, malheureusement, on est beaucoup à l'avoir imaginé, mais qu'on n'osait pas se le dire, on n'osait pas se l'avouer. et on n'osait pas le dire en public, comme si on avait honte d'imaginer effectivement que quelque chose comme ça puisse passer. On a été tous élevés, nous trois, même vous, Sandrine, qui êtes plus jeune, de la génération de plus jamais ça. Quoi que nos parents nous disaient, si ça revient, c'est-à-dire eux, ils savaient que ça pouvait revenir. Voilà. Mais quelque part, que ça soit encore plus incroyable pour nous, on a été élevés dans le sionisme, que ça se passe en Israël en plus, c'était évidemment un choc d'autant plus terrible. Donc, c'était pas vraiment inimaginable. Maintenant, les figures du mal, c'est un travail qu'on fait à Chibolek depuis longtemps. C'est-à-dire en travaillant l'islamisme, l'antisémitisme, le totalitarisme, enfin, l'antiféminisme, enfin, toutes les formes de totalitarisme, etc. On y travaille depuis longtemps. On n'avait pas imaginé, effectivement, au sens où je l'ai dit là, imaginé, ce massacre-là, en Israël en particulier, mais c'était présent. Alors, il faut dire que la figure du mal, effectivement, j'ai choisi ce mot-là. J'avais déjà fait avec Chibolek un truc sur la Shoah, un bouquin sur la cruauté, figure de la cruauté. J'ai dit le mal parce qu'au fond, c'est un concept bizarre. C'est un concept qui a envahi la pensée occidentale, en tout cas, pendant des siècles et des siècles. C'était la morale, le bien et le mal. Ça a été omniprésent, y compris dans les idéologies, y compris dans le marxisme, etc. Il y avait le bien, c'était nous, et le mal, et la dictature du prolétariat, et le mal, c'était les autres. Bon, dont les juifs, d'ailleurs. Voilà. Et puis, ça a bizarrement disparu avec la montée de nouvelles idéologies dont on ne savait pas qu'elles seraient à l'origine de nouveaux totalitarismes. Le déconstructivisme, le relativisme culturel, etc., qui, à la fin de la guerre, en gros, hein, à la fin de la guerre et après la Shoah, et je pense que le mal a disparu, on a fait disparaître le mal, pas seulement le faire disparaître, mais c'est devenu un concept, ceux qui l'employaient devenaient des fascistes, on les accusait de fascistes, d'extrême droite, etc., qui voulaient juger ce qui était bien et mal, et évidemment, ceux qui les accusaient, évidemment, pensaient que c'était eux le bien et les autres le mal. Bon, c'était un concept, effectivement, qui est devenu tabou. Et en psychanalyse, effectivement, on parle de destructivité, on parle de pulsion de mort, on parle de sadisme, on parle de cruauté, on parle de etc. On parle pas de mal parce que mal, ça faisait effectivement moral. Et moi, je pense effectivement qu'on a fait disparaître le concept de mal parce que on avait honte. C'est la honte de la Shoah. On parle souvent de la culpabilité du colonialisme en Europe. Je pense que ce qui est très actif encore aujourd'hui dans la haine des Juifs, c'est la honte. Et pour éliminer la honte de ne pas s'être battu, hein, parce qu'en général, on ne s'est pas battu, on a collaboré, si ce n'est qu'on a aussi complice aussi de la Shoah, pour éliminer la honte, il faut effectivement se trouver un objet de haine qui soit légitime, qu'on trouve légitime, qu'on essaie de légitimer. Évidemment, d'où la nazification d'Israël, etc. Donc on a essayé d'éliminer le mal en nous, hein, en Occident, ce concept-là, pour éliminer effectivement la honte de l'Occident, qui maintenant, comme on le voit, alors on avait dit qu'on serait pas trop pesant, mais il faut quand même,
on est obligé
de le dire.
Oui.
Je veux dire, ce déchaînement pulsionnel après le 7 octobre, qui rêve finalement de finaliser la solution finale qui n'a pas été réalisée, parce que c'est de ça dont il s'agit, finalement, elle est liée à ça. Enfin, c'est possible. On va se débarrasser, effectivement, des Juifs pour se débarrasser de la honte, pour se débarrasser de notre haine qui nous bouffe. Parce qu'au fond, ce qui caractérise, on le voit, l'antijudaïsme, c'est l'obsession. Ils sont obsédés. Ils sont obsédés par nous. Toute la campagne électorale, là, s'est faite autour de Gaza. On a l'impression qu'on faisait les campagnes municipales de Gaza. C'est quand même incroyable, cette obsession. Donc, effectivement, les figures du mal, à la fois, c'est un concept que j'ai voulu réhabiliter parce qu'il est dans la tête de tout le monde, à la fois individuellement et collectivement. Et en même temps, c'est un concept qui est devenu tabou et qui revient pour ceux qui les arrangent, notamment les totalitaristes qui disent le mal, c'est les Juifs, le mal, c'est je ne sais pas quoi, etc. Et donc, ce livre qui est issu d'un colloque auquel vous avez participé d'il y a 2 ans, au fond, malheureusement, il tombe bien, c'est terrible de dire ça, il tombe bien parce que, évidemment, ça intéresse beaucoup de gens. Parce qu'il tombe à un moment, effectivement, où le mal absolu est là. Hein, le ça est là. Et donc, on l'a abordé de toutes les façons possibles, comme on le fait d'habitude à Chibolek, à travers l'art, à travers la littérature, à travers tous les champs où il s'exprime.
Voilà, de manière pluridisciplinaire. Oui.
De façon pluridisciplinaire. Et dans toutes les religions, en quoi, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, etc., dans les idéologies, comment ça fonctionne, comment il est utilisé, comment il est pensé, quoi.
Alors, ce que vous venez de dire m'inspire deux remarques, mais je vous les poserai après. Je me tourne de nouveau vers Richard Koenigsmann. Quand vous avez commencé à peindre, est-ce que pour vous, c'était une sorte de geste quasiment vital de créer, après avoir été percuté par le 7 octobre ? Le geste de peindre, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Mais, je crois qu'il y a un midrash qui dit qu'après après la prophétie, ce sera le temps où on donnera la parole aux fous et aux enfants. Alors je me suis retrouvé comme un enfant, post-prophétique, tout en étant relié, comme disent certains rabbins, que l'artiste est Emouna, c'est la même racine que Emouna, c'est-à-dire la croyance, ainsi soit-il, oui. Amen. Et je me suis projeté sur une toile, ça se dit d'ailleurs, c'est le geste pictural est un geste physique. Et en écoutant Micha là à l'instant, je me suis dit qu'au fond, j'étais chercher la boue au fond des bocaux. C'est infâme, c'est informe, pour peindre avec la boue. Alors, je réfléchis tôt. Est-ce que j'ai peint avec quelque chose en moi qui était de l'ordre du boueux, du sale, qu'il fallait que ça sorte ? Était-ce la réaction, évidemment, à ce qui s'est passé la veille, où je n'en connaissais qu'une petite partie ? Je ne sais pas, mais en effet, il fallait que je me jette et que je fasse ce geste de peindre, de peindre d'une toute autre façon, parce que c'est une rupture stylistique. Je crois que Micha a abordé ce concept de rupture anthropologique, et je crois vraiment que c'est une rupture, sinon une déchirure pour chacun de nous. Donc je pourrais développer tout à l'heure, si on a le temps, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan formel en ce qui concerne mon travail. Mais c'est une vraie déchirure, c'est une vraie rupture. Et donc c'est à la fois ce qui sort, c'est du vomi, c'est tout ce qu'on veut, mais on était dégoûté de voir ce qui se passe et on n'a pas pu envisager que ça se passe, que ça s'est passé de cette façon-là, jusqu'à hier encore, avec cette petite fille.
Oui.
Voilà. C'est donc le mal absolu, c'est plus eux. Le mal absolu, c'est nous.
Absolument.
Ils sont éduqués dans l'idée qu'ils ont rencontré le mal absolu. Si j'étais en 1946-47, si j'étais un petit garçon de 12 ans, ce qui n'était pas le cas parce que je suis né en 45, j'aurais rencontré une petite fille de nazie. Je crois que l'éthique qui m'aurait été transmise à 12 ans ne serait pas de la violer, de la massacrer. Mais je peux comprendre que j'ai été éduqué en face d'un mal absolu qui était les nazis. Et je pense qu'il y a des familles qui éduquent leurs enfants à détruire ce mal absolu. Ils sont chauffés à blanc et la responsabilité morale, je le dis, pas comme Français, mais comme Belges, Européens, c'est pas ces pauvres gosses complètement décérébrés qui ont dû entendre des choses abominables dans leur famille, mais il y a des responsabilités morales politiques ici en France. Voilà, on peut développer.
Oui,
Alors, je vais vous poser une question, Michel Gatt, peut-être qui va illustrer aussi ce qui vient d'être dit. En vous écoutant, on sent qu'il y a eu une sorte de glissement et sans doute une inversion des tendances, la dialectique binaire hein, depuis les temps bibliques entre le bien et le mal. Et aujourd'hui, arriver à une sorte d'opposition entre la figure de la victime, la figure du bourreau, la figure du colonisateur, et tout s'embrouille. Est-ce que le mal, c'est ça ? La perte des notions ?
Écoutez, le mal d'abord est possible à partir du moment où les instances, où les représentants des instances juridiques, internationales, universitaires, enfin, etc., qui ont un rôle d'être garant des marqueurs civilisationnels, faillissent. Hein? Ils faillissent. Et à ce moment-là, tout est possible. Les délires sont possibles, hein? Puisqu'il n'y a plus de vérité. La vérité, c'est le récit qu'on en fait, c'est ce qu'on en veut, etc. Donc, la responsabilité, c'est d'abord nos instances. Les instances internationales, les responsables des cultures, parce qu'il y a un problème culturel quoi, qu'il faut dire, hein, etc. Et puis, il y a les responsabilités individuelles. Pour reprendre ce que disait Richard, qui est très important, on voit qu'il y a une rupture anthropologique. Certains m'ont contesté un petit peu ce concept, parce que ça devient banal. Ce qui s'est passé avec cette jeune fille de 12 ans, ça devient banal. Et ça devient banal parce que ça a été encouragé. Quand LFI fait toute sa campagne sur la propagande pour le Hamas, on ne peut pas le dire autrement, hein, il provoque des identifications mimétiques. Ce qui s'est passé là, comme tu l'as dit Richard, c'est la réplique de ce qui s'est passé dans les kibbutz ou à Sderot, etc., le 7 octobre.
C'est le modèle.
Ils ont fait pareil. Et on leur a dit que c'était bien, que c'était une résistance, que c'était héroïque. Ils s'identifiaient. Alors, ils ont déjà été nourris à l'antijudaïsme, il ne faut pas se le cacher. Mais effectivement, les passages à l'acte, c'est une étape supérieure qui est permise parce que, d'une certaine façon, c'est objectivé, c'est validé, c'est permis, c'est une opinion.
Et nous sommes le mal.
Et nous sommes, et il y a cette inversion, etc. Et nous sommes dans cette convergence. Je parlais d'idéologie totalitaire tout à l'heure qui se vole anti-totalitaire, anti-raciste, qui est la convergence des idéologies victimaires. Hein. Les identitaristes, les wokistes, les islamistes, etc., etc., tout ce qu'on veut, les LGBTistes, etc., quand c'est une convergence des idéologies victimaires, et le narcissisme se situe là. Hein. Plus on est victime, plus on est héroïque, plus on a tous les droits, etc. Évidemment, le juif représente le contraire. Nous, avec nos lois, avec nos commandements, avec nos limites, etc., avec notre éthique, évidemment, on est le mal. Et on le sera toujours. Hein, forcément, on le sera toujours. Bon, maintenant, comment se battre? Et là, je reprends la question des institutions, celles qui encouragent ça. Mais comment se battre, nous, en tant que juifs? Et là, je pense effectivement qu'il devrait y avoir lieu, alors je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, mais nos soi-disant représentants de la communauté juive, je ne comprends pas pourquoi ils n'attaquent pas LFI et les médias, etc., qui ont, par leur propagande, par leur discours, etc., encouragé, d'une certaine façon, agi, mis dans les mains. Un peu comme il y avait les islamistes, on disait que c'était des atomes isolés, ça n'est pas vrai, ils étaient nourris par un discours, ils sont nourris par un discours de masse, etc. Ils sont l'arme des gens qui les influencent. Ces enfants sont aussi l'arme de ceux qui ont fait de la propagande pour le Hamas et qui ont diabolisé, nazifié, génocidé au sens où ce seraient les juifs qui étaient, comme tu dis, le mal, Richard, qui sont les génocidaires. Ils sont les génocidaires. D'ailleurs, dans le bouquin, il y avait un article, il fallait le reprendre, de Frédéric Ancel, qui fait la différence entre des actes génocidaires et des actes de guerre. Là, c'était prémonitoire de le remettre dans ce bouquin. Donc, je crois qu'il faut se battre maintenant.
Alors, comment on s'en sort? Est-ce que c'est le retour à l'autorité, peut-être une autorité qui est plus ancienne? Entre la peur, le déni et la complaisance, on a l'impression que nos autorités ne veulent pas faire grand-chose. Et je voudrais revenir sur votre préambule, Michel Gadvolkovitch, qui est très intéressant. Vraiment, entre le plus jamais ça et le si ça revient, le ça est là. Depuis la Shoah, on a répété de manière lancinante, plus jamais ça. Pour y croire, mais aussi peut-être pour conjurer le sort. Et pourtant, depuis le début des années 2000, des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées ont été assassinées en France parce qu'elles étaient juives. Et j'aimerais reciter ces affaires. L'affaire Sébastien Selam, mort parce que juif. L'affaire Ilan Halimi, mort parce que juif. L'attentat de l'école de Toulouse aux Aires à Torah. 5 morts parce que juifs, dont des enfants de 3, 5 et 8 ans. L'attentat de l'hypercacher, 4 morts parce que juifs. L'assassinat de Sarah Halimi, 65 ans, morte parce que juive. L'assassinat de Mireille Knoll, octogénaire, morte parce que juive. Et on a continué de répéter plus jamais ça. On a pensé que c'était des faits divers. Et puis il y a eu le 7 octobre avec ce qui a été qualifié de massacre, de plus grand massacre antisémite de notre siècle. La vague antisémite qui en a résulté, pourquoi les leçons du passé sont inutiles et pourquoi ces affaires-là n'ont pas été prises en compte?
Mais parce que c'était pas possible de les prendre en compte. Personne ne voulait les prendre vraiment en compte. Pourquoi on a fait des commémorations, des repentances à la mode chrétienne, au fond, hein? C'est-à-dire, on se purifie par les repentances, par les commémorations. Pour faire d'Auschwitz une abstraction, c'est devenu une abstraction, Auschwitz, avant d'être récupéré en disant que c'est les Juifs qui font Auschwitz à Gaza, à Jenin, etc. Mais pendant longtemps, on en a fait une abstraction par les commémorations. Il n'y avait plus de coupables, il n'y a plus de responsables. C'était comme... D'ailleurs, la notion de holocauste, c'était ça. La notion de holocauste, c'est quoi? C'est les Juifs sont sacrifiés parce qu'ils sont coupables d'un péché originel. Donc, c'est normal. Hein, c'est normal. Et quand on fait des commémorations, on se purifie. Hein, on se purifie. Il n'y a plus de... Et il n'y a pas de travail de culpabilité, évidemment. Donc, il n'y a pas de travail de mémoire, il n'y a pas d'autocritique, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est insupportable. Il faut en revenir à ce qui s'est passé là et aux réactions, effectivement, en Occident et en Europe contre Israël. C'est qu'au fond, depuis 2000 ans, et c'est là le point de rencontre entre l'islam et l'Europe, à mon avis, c'est qu'il est totalement irreprésentable et acceptable que le peuple juif soit souverain sur sa terre. Sur sa terre, ça veut dire qu'il est souverain. Et on lui renie, d'ailleurs, quand on dit toujours il a droit à sa sécurité, il a droit à des frontières sûres et reconnues. En psychanalyse, on appelle ça la dénégation. C'est-à-dire, plus on répète quelque chose et plus on l'affirme, plus on sent que c'est effectivement quelque chose qui est dénié. Bon, il n'a pas le droit de se défendre, il n'a surtout pas le droit d'être vainqueur. Pourquoi il y a toute cette histoire autour de Rafah? Vous imaginez, Israël va essayer de sauver, de libérer 4 otages, il y arrive, le monde devrait être content, fier, etc. Ben non, c'est insupportable. On lui reproche, effectivement, d'avoir été violent, de ne pas avoir respecté un accord qui n'avait pas été signé, et d'avoir tué des gens qu'ils n'ont pas tués, puisque c'est le Hamas lui-même, avec soit en tirant, soit avec l'armement qu'ils avaient, qui a sauté. C'est insupportable pour le monde, pour l'Europe, c'est insupportable qu'Israël soit souverain, que le peuple juif soit souverain sur sa terre, et soit vainqueur en plus. Et je crois qu'il faut, il faut dire que c'est depuis le début, depuis après la Shoah. Je pense qu'on a considéré, il y a eu des ministres français qui l'ont dit d'ailleurs très clairement, Israël est un refuge, c'est une parenthèse de l'histoire. Ils avaient le droit un moment de paix, d'une certaine façon, et donc on les a tolérés tant qu'ils étaient en pyjama rayé avec une petite Uzi dans les champs en train de faire pousser des tomates. Dès 67, où ils se sont battus, où ils n'ont pas écouté De Gaulle, ils se sont montrés indépendants et autonomes, c'est devenu insupportable. Et depuis ce moment-là, la question de la souveraineté juive est insupportable. Et je crois qu'il faut dire quelque chose, c'est que, au fond, les antisémites sont dans ce paradoxe incroyable. Ils ont besoin des juifs, ne serait-ce que comme bouc émissaire, ne serait-ce que comme quand même pour plein de choses, et en même temps, ils veulent les faire disparaître parce que c'est un peuple témoin et un peuple miroir de leur honte et de leur lâcheté, de tout ce qu'ils abandonnent, etc. Donc ils deviennent fous. Les Européens se mettent eux-mêmes dans une sorte d'injonction paradoxale où à la fois on veut qu'ils existent, mais en même temps on doit les supprimer. Ils deviennent fous.
Et nous, en tant que juifs, je dois dire que depuis le 7 octobre, par-delà des analyses géopolitiques, Gilles Kepel, Frédéric Ancel, d'ailleurs qui a écrit un superbe texte dans le catalogue, et d'autres, je n'ai jamais autant réfléchi sur notre position de juif. Quelle est cette identité qu'on peut nous reprocher jusqu'à vouloir nous effacer? Et je dois dire que grâce à YouTube, grâce à vos émissions, grâce aux lectures, grâce aux articles, grâce aux bouquins, personnellement, je réfléchis, comme on dit en philosophie, à nouveau frais, ma propre position de juif. Quel est le message? Y a-t-il un message? Je fais partie d'un peuple. Je dois dire que, ici en face de moi, il y a un psychanalyste qui a commis un lapsus merveilleux. Et c'est pas moi qui l'ai commis, c'est lui. C'est-à-dire qu'il m'a pris pour Gérard. C'est formidable, si j'ose dire.
Je sais pourquoi, parce mais je ne vais pas le dire.
Parce qu'ici... Moi, je vais donner mon explication consciente. L'inconscient, on en reparlera peut-être plus tard. C'est que j'ai eu un frère qui est mort, qui s'appelait Gérard. Mes parents, qui étaient cachés à Lons-le-Saunier en France pendant la guerre, ils ont eu un petit garçon, ils ont voulu fuir et partir en Suisse. Le train était bombardé par les Anglais. Mes parents ont sauté du train. Maman était enceinte, elle a accouché d'un petit garçon, ils l'ont nommé Gérard, et il est mort après 8-10 jours. Et à Lons-le-Saunier, il y a non plus une tombe, parce que après 50 ans, on met les enfants dans ce qu'ils appellent le jardin des enfants. C'est une fosse commune. Et donc, mon histoire personnelle est basée sur la disparition d'un frère. C'est pas par hasard que ma sœur, qui est née en 44 pendant la guerre, et à qui je rends... vraiment encore un hommage, parce qu'elle s'appelait Gérardine, et qu'il y a eu un tribunal français qui lui a donné un autre nom qui est Géraldine, et moi on m'a appelé Richard. Comme a dit un psychanalyste que vous connaissez tous, Daniel Siboni, ils ne t'ont pas raté. Et ils ne m'ont pas raté. Donc, premièrement, je repense à nouveau frais ma position de juif. Qu'est-ce que je fais ici en Belgique ou en Europe? D'où vient... cette haine? Faut-il remonter, parce que les analyses sont à la fois géopolitiques, psychanalytiques, politiques, historiques, sociologiques, mais j'écoute de plus en plus les rabbins, certains rabbins qui vont voir du côté de la Bible, qui vont voir du côté des temps messianiques. Donc je suis pris dans la culture juive, dans la pensée juive. Ma peinture, comme je vous ai dit, je peins en yiddish, je peins en juif. Elle est là, avec ses failles, avec ses ruptures, avec le questionnement perpétuel. Et je reste sur la question, je n'ai pas la réponse. Mais on est repoussé à notre âme et notre être de juif parce qu'il est en train de se produire. Et j'espère que sortira de cette ténèbre, de ce tunnel historique, quelque chose qui sera du côté de la lumière, dans la mesure où il y a eu des justes pendant la guerre. Mes parents ont été sauvés parce qu'ils ont été cachés. Il y a des nations qui sont justes, qui voient juste. Il y a ceux qui nous haïssent, ben ils seront ensevelis dans l'histoire et dans la ruine, dans leur propre ruine. Je rentre dans les élections françaises, j'y vais tout de suite, vous savez, comme Belge, j'ai le droit. Je pense qu'il y a des partis ici extrémistes qui sont du côté de ceux qui ne sont pas justes, qui ne disent pas la réalité, là, qui ne disent pas la vérité, qui mentent, qui pervertissent. Là, les psychanalystes pourront interpréter leur perversion, qui renversent toutes les valeurs. Ceux-là, il faut surtout pas qu'ils passent. Et il faut laisser ce que moi je considère comme la devise absolue, liberté, fraternité. Et ce sont ces paroles-là qui doivent gagner les élections françaises, parce que la France est regardée par le monde entier, il faut le savoir. Et donc, il ne faut pas faillir à l'histoire de la France, c'est-à-dire du côté de la liberté, la fraternité et l'égalité. Voilà.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Michel Gad-Volkovitch, qui nous parle de ces figures du mal qui viennent de paraître aux éditions In Press, et Richard Koenigsmann pour son exposition à l'Écuge, 7 octobre 2023, Larmes aux yeux, larmes à l'épaule. Richard, vous avez parlé à plusieurs reprises de rupture identitaire dans votre appréhension de votre définition du judaïsme, de rupture aussi artistique par rapport à de nouvelles techniques de peinture pour ces œuvres. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, je crois vraiment que c'est une rupture, c'est-à-dire, personnellement, là c'est mon histoire personnelle, j'étais influencé par toute une série d'artistes, comme beaucoup d'artistes. C'est passé par un artiste italien, Tadini, un artiste américain, Guston, enfin il y a eu toute une série d'artistes. Et tout à coup, je me suis libéré pour atteindre mon propre style, mes propres formes, en reprenant une phrase que j'ai toujours citée mais que je n'appliquais pas, celle de Victor Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Et je pense que mon fond juif, je le dis, ce phonème juif, comme dans le film de dictateur, Yud, Yud, enfin, ça remonte à la surface, et ça, c'est le fond. Et ça a donné une forme nouvelle, c'est-à-dire libérée de tout regard vers ceux qui étaient derrière moi, Bonnard, Matisse, Bacon, enfin, tous ces grands peintres, dont je voulais me détacher. Et au fond, le meilleur détachement qu'on puisse trouver, en ce qui me concerne, c'est aller vers soi-même. C'est une libération. Et donc, c'est une œuvre, une centaine de tableaux, vous savez, et je continue, qui sont libératoires et qui ont surtout entraîné les autres à écrire. Et ça, c'est ça qui est formidable.
Alors, à écrire, à donner des titres aussi aux œuvres. Alors, on peut le dire, hein, en général, elles sont sur du papier craft, réalisées avec de la peinture à l'huile.
Oui.
Est-ce que c'est la logique pour toutes les toiles?
Alors, d'abord, tous les titres n'ont pas été donnés oui. par les autres, je les ai donnés moi-même. Je vais citer un mot d'Evelyne Chauvet, psychanalyste, qui me disait hier, justement, c'est qu'il n'y a pas de création s'il n'y a pas d'adresse. Je ne me rendais pas compte, parce que vous savez, quand je peins, je peins. Quand je mange, je mange. Quand je parle, je parle. Mais quand je peins, je peins. Et en effet, c'était libératoire, je viens de vous l'expliquer. Mais c'est surtout parce que je m'adressais. Et je m'adressais à une seule personne au départ. J'ai envoyé le premier tableau à Sarah Catan, en lui disant, tu sais, c'est une œuvre d'art, donc on parle un peu de beauté, c'est peut-être pas le moment. Elle m'a dit, mais non, au contraire, continue. Et tous mes amis, dont toi, Micha, m'ont encouragé à continuer. Certains artistes m'ont dit, mais c'est pas possible, comment c'est possible que je peux plus peindre, et toi, tu peux le faire. Donc, je crois que j'étais dans une période, je suis peut-être en train maintenant de la payer, je suis un peu enrhumé, j'ai un peu mal au ventre, je crois que c'est le contre-coup. Je laisse mon inconscient travailler, vous savez, ma femme est psychanalyste, donc je dis l'inconscient, mon inconscient fera le travail. Mais en effet, c'était libératoire, un changement de style, dont je peux rentrer dans les détails. Mais enfin, c'est quelque chose de très original. Moi qui cherchais à l'être, ne l'étant pas, j'étais parfois épigone de certains peintres. Là, je suis moi-même. et je peux affirmer, et surtout je peux produire. C'est ça qui est extraordinaire. Et je me sens donc libéré, et j'espère que je ferai des tableaux. Je prépare un tableau, c'est « We will never stop dancing, we will dance again ». Parce qu'il faut regarder du côté de la lumière. Il y a un tableau que j'ai nommé, c'est venu comme ça, c'est une lampe de mineur dans laquelle il y a une petite Torah. Lumière encagée, lumière libérée. Et donc, nous, notre peuple, on va vers une libération, vers la lumière. J'espère en tout cas.
Heureusement, Michel Gadvolkovitch, il y a de l'espoir. L'espoir de réunir dans une publication des chercheurs de tous les horizons pour dialoguer, créer des réflexions et puis aboutir à une réflexion et un ouvrage. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la réponse au mal, la création ?
Bien sûr, c'est le choix de la vie, selon la formule qu'on aime bien. Moi, j'aime beaucoup ce que vient de dire Richard. Je pense que notre force, effectivement, et le choix de la vie, c'est de pouvoir penser ensemble. Richard, effectivement, on s'adresse toujours à quelqu'un, même si on ne sait pas à qui, ne serait-ce que ça s'adresse, c'est du transfert, justement. Hein. Et j'ai toujours pensé, depuis le 7 octobre, là, j'étais à une réunion au Sénat, et Georges Diener, le directeur de l'Institut de Tel Aviv, avait accepté formidablement que je fasse une rencontre sur le 7 octobre très vite. Et ce n'était pas évident politiquement par rapport à la situation. Et j'ai vu combien c'était important de se rassembler, de penser ensemble, d'essayer de mettre des mots, etc. Et là, évidemment, ils participent complètement. Il y a quelque chose qui nous réunit, les psychanalystes et l'artiste, c'est qu'on doit, c'est notre devoir, d'imaginer ce qui est imaginable, de se représenter ce qui est représentable, hein, et de le proposer aux autres, en tout cas de le faire avec les autres. Donc se réunir, penser ensemble, faire un travail de lien, de liaison, c'est à la fois une façon de survivre, une façon de vivre, une façon d'être et une façon de créer. Hein. Et je pense que effectivement, ces épreuves-là, cette épreuve-là, une nouvelle qui réveille à la fois des traumatismes transgénérationnels. Richard le rappelait. On a nos parents, toi-même, t'as ton frère, ta sœur, etc. Et moi, mes parents et tout. Bon, on a connu ça. On le porte en soi. Et à chaque fois, on nous a transmis aussi, nos parents nous ont transmis la force d'en faire autre chose qu'une identité éternellement victimaire. Et je crois que c'est la force du peuple juif. Là, effectivement, avec cette épreuve, tout le monde, quel qu'il soit, croyant, pas croyant, en Israël, pas en Israël, s'est reposé la question, effectivement, qui on est, qui on veut être. Pas seulement où on veut vivre, où on sera plus en sécurité, mais qui on est à la fois individuellement et collectivement. Je dois rajouter aussi que cette question-là qu'on est capable de se poser et qu'on doit se poser en tant que juif, c'est le ma, hein, ma. On est question, l'homme est question. Au fond, c'est de ça dont on nous veut aussi. Hein, c'est-à-dire ce singulièrement universel que le juif met en œuvre, met en scène, c'est aussi un miroir souvent insupportable. Et pourtant, c'est un, pour reprendre le mot de mon copain Michael Bartzfi, c'est répondre à un appel. Et c'est ça qui nous fait, qui nous meut qui est un moteur de vie.
Alors deux questions pour terminer. Depuis l'affaire Dreyfus, l'intellectuel est défini comme celui qui s'engage dans une cause en utilisant sa notoriété acquise par ses travaux littéraires ou artistiques et qui tente de faire changer l'avenir. Est-ce que vous vous considérez comme des intellectuels ?
Enfin, personnellement, je n'aime pas ce mot-là. D'autant oui. qu'en France, je trouve que l'intelligentsia depuis bien longtemps, ne répond pas du tout à l'attente qu'on peut avoir. Ils ont été souvent collabos, ils ont été fascinés par les totalitarismes. La grande majorité l'est encore, maintenant. Le monde culturel, le monde intellectuel, le monde universitaire, le monde médiatique, etc., est fasciné par le totalitarisme. Il y a une jouissance, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est pas seulement de la soumission et de la peur. Il y a ça, évidemment. Mais il y a aussi de la jouissance masochiste à être soumis, etc. Il y a une fascination. Il y a eu le stalinisme, le bolchevisme, le nazisme. Aujourd'hui, il y a l'islamisme, etc. Donc, je ne veux pas être intellectuel et me catégoriser là-dedans.
Et comment j'essaie vous vous qualifiez penser,
Non, moi, modestement, je suis un petit tailleur. Mes parents étaient chemisiers sur mesure. C'est ma petite boutique, mon petit atelier, à la fois dans mon travail, avec mes patients, avec mes collègues, et puis avec les gens avec qui je peux penser. Et vous en faites partie, Sandrine, Richard aussi. Voilà, les gens qui peuvent aborder avec moi, à partir de leur champ, à partir de leur filiation à eux, des problématiques communes qu'ils sont nécessaires d'aborder. Et c'est comme ça qu'on tricote, c'est comme ça qu'on tisse. à la fois quelque chose qui devient un fond commun de pensée et à la fois dont chacun peut s'attribuer quelque chose pour lui. Hein, c'est pour moi le sens de la transmission. Chacun prend quelque chose et en fait quelque chose à lui. Je pense que c'est ce qu'on a nous-mêmes à transmettre, la transmission de la transmission, pas seulement des valeurs. Donc, le monde des intellectuels catégorisé comme ça, je pense que c'est pas du tout quelque chose à quoi je m'identifie. Ça veut pas dire qu'il faut pas penser. Mais ceux qui se prétendent intellectuels et donc qui auraient le droit de penser, ceux qui s'incarnent dans le monde culturel et donc à ce nom-là, ils sont acteurs, actrices, etc. et qui sont envieux. On a vu ceux qui traitent mon ami Roman Polanski de la façon dont il traite avec l'envie, la haine, etc. Enfin, on sait ce que c'est. Non, je veux dire, on ne doit pas s'incarner comme intellectuel, on ne doit pas s'incarner comme quelque chose. On a à travailler, on a à penser, on a à proposer, on a à se remettre en question.
Et de votre côté, Richard,
en deux mots.
Oui, parce que vous parliez tout à l'heure de la réception de vos œuvres. Vous les avez réalisées, elles ont inspiré quelque chose à celles et ceux qui l'ont vue. Est-ce que c'est une mission pour vous
une
sorte de mission de penser à cette réception de vos travaux par rapport à autrui?
Dans l'après-coup, on peut dire que c'est une mission, mais quand je suis dans la mission, c'est comme le courage. Hein. C'est pas un commandement. On peut pas commander à quelqu'un « sois courageux ». C'est un commencement. C'est très Bereshit. Donc, j'ai commencé, et puis le reste, c'est des commentaires. Mais je rebondis sur le mot « commentaire ». Vous connaissez ce mot célèbre de Jabès, hein, « commentaire, commentaire ». Alors aujourd'hui, ce sera pas « commentaire », c'est comment ne pas se taire, comment rester silencieux. Alors, je me qualifie depuis le 7 octobre, c'est nouveau pour moi, certainement pas intellectuel, pour moi ça renvoie à Sartre, l'intellectuel de gauche, enfin, on a vu ce que ça a donné, prêt à tous les compromis, même sur même devant une usine avec le journal, je ne sais plus le nom du journal.
La cause du peuple.
Voilà, exactement, la cause du peuple. Non, je me qualifie, si on peut se qualifier, dans le judaïsme, il n'y a pas de qualificatif. Il y a Rosenberg, qui est un grand commentateur et critique d'art américain, qui a appelé son bouquin célèbre « La dédéfinition de l'art ». C'est-à-dire qu'on ne définit pas dans le Talmud, on ne définit pas. Vous avez raison, tout le monde a raison. Donc je ne me qualifie pas. Mais tout de même, pour répondre à votre question en deux mots, avant de terminer, c'est que je me qualifie comme artiste. Voilà. Et ça, je l'assume maintenant. Ça entraîne engagement, en effet. Je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas là avec mes pinceaux. Là, j'essaie d'utiliser quelques concepts, les rares que j'ai, quelques idées. Mes pinceaux et mes tableaux auront toujours le dernier mot parce qu'ils sont silencieux. Donc là, c'est le silence des tableaux avec tout ce que ça comporte comme commentaires qui ne m'appartiennent plus, qui m'échappent. Donc la mission, j'ai fait le job, si j'ose dire. Voilà, comme artiste.
On a beaucoup parlé, on a un petit peu dépassé le timing, mais c'est pas grave parce que c'est très intéressé. En tout cas, j'invite les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom à se procurer Les figures du mal sous la direction de Michel Gad-Volkovitch, un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions Une Presse, et puis aller voir l'exposition à l'Écuge tout l'été, 119 rue Lafayette dans le 10e arrondissement, 7 octobre 2023, larmes aux yeux, larmes à l'épaule, avec un catalogue aussi qui prolonge cette exposition, et de vous dire à très bientôt. Bonne soirée.
Merci.
Merci.
Merci Sandrine.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.